Bonjour, et bien nous sommes dans l'émission Tourne-Page avec Marie-Lise. Nous allons parler de livres qui parlent du Japon. Alors, un premier, au Japon, ce qui s'aime ne disent pas je t'aime. Elena Janvier, c'est édité au Seuil, et cela se présente comme un abécédaire. Alors, au hasard, pour les bains, eh bien au Japon, on a des traditions de bains différentes. Au Japon, on ne met jamais de bain moussant dans le bain. Il n'y a pas de bain moussant. En fait, le bain moussant n'existe pas. Le bain moussant, c'est tout simplement une hérésie. L'eau du bain est pure et claire, vu qu'on s'est déjà douché, shampooiné tous les jours, étrié copieusement, rincé avec des baquets, dans un espace réservé à cet effet. Le comble du raffinement, une cuve en bois de cryptomère dont l'essence parfume délicatement l'eau brûlante. Et où l'on peut faire flotter, selon la saison, une racine d'iris ou quelques cédras. On ne se baigne pas pour se laver, mais parce que c'est agréable, parce que ça réchauffe l'hiver et détend après le bureau. Ou bien pour bavarder avec les voisins ou les voisines, au bain public. Un bain pour les hommes, un autre pour les femmes. Ou parce que c'est une eau réputée, dans un site merveilleux, sur une terrasse abritée entre des rochers où l'eau fume en regardant la lune et les étables et parfois la neige. Et on peut faire déborder la baignoire, et je ne continue pas parce qu'il y en a comme ça toute une longueur, mais il y a à la fois l'agrément de l'écriture, parce que finalement ce n'est pas une phrase toute bête, c'est toujours un peu poétique, et aussi cela nous emmène dans la civilisation japonaise.
Oui, et ça nous interpelle en ce que souvent, quand on va dans un pays étranger, je pense qu'il faut essayer de comprendre les gaffes à ne pas commettre. Et il faut essayer de comprendre des choses qui peuvent nous heurter et qui, en fait, sont le béaba là-bas. Par exemple, là-bas, on vous dit, au Japon, on vous dit bonjour, vous avez quel âge et c'est quoi votre métier et voilà. Et pourquoi ? Parce qu'on veut s'adresser à vous de la bonne façon. Et que les mots sont différents si on s'adresse à une personne de 30 ans, ou si c'est un homme ou une femme, ou ça se voit davantage, ou si on a 70 ans. Donc, en fait, nous, on trouverait ça grossier, et eux, c'est la politesse élémentaire. Donc, en fait, ça nous ramène aussi à l'Angleterre, when in Rome. Hein.
Alors, avec aussi quelques remarques amusantes. Au Japon, il y a des réunions pour préparer les réunions, ou bien pour limite. Une fille non mariée à 30 ans, toute la famille s'inquiète. Donc, quelques aspects aussi pleins d'humour, et puis qui nous remettent nous-mêmes en question. Voilà, nous on fait comme ça, mais au fait, pourquoi ? Est-ce qu'on a réfléchi aux raisons pour lesquelles on fait ça ? Et après tout, est-ce que l'autre qui fait autrement n'a pas aussi ses bonnes raisons ? Et on voit aussi qu'il y a quelques similitudes. Expression, par exemple. En latin, on dit que l'erreur est humaine. En japonais, que les sages eux-mêmes parfois tombent des arbres. On dit aussi que les petits des grenouilles sont des grenouilles. Chez nous, c'est tel père, tel fils. Et qu'on ne fait pas de bonne flûte avec un bambou vert. C'est dans les vieux pots, etc. Donc, un livre amusant qui nous entraîne ailleurs et qui se lit de façon très très facile, n'importe où là, même dans le métro quand il y a beaucoup de monde. L'autre livre dont on voulait parler, c'est de Yu Nagashima. Deux nouvelles, c'est édité...
Je crois que c'est chez Philippe Piquet.
Voilà.
Alors Philippe Piquet, ça c'est vraiment, il faut retenir ce nom, quand vous voulez lire des livres d'excellente qualité sur toute la littérature asiatique, allez chez lui. Voilà, il est très bien représenté à Dreux, par exemple, mais aussi bien les Coréens que les Japonais que les Chinois. C'est toujours remarquable et toujours de grande qualité.
Alors, dans cet ouvrage, Ma mère à toute allure, il y a deux nouvelles. Et toutes les deux ont un thème un peu identique. Une écriture qui donne la parole aux enfants. Ce sont les enfants qui observent leurs parents qui vont, qui viennent, qui vont vite, qui se disputent, qui divorcent, qui essaient de se cacher des grands-parents et leur relation à l'école. Alors, je vais à l'école et mes parents veillent à ce que j'aille à l'école ou bien ne viennent pas aux réunions parents-prof. Donc, comment l'enfant prend la vie quotidienne avec une simplicité désarmante. En fait, ces choses si compliquées sont retracées ici avec une simplicité désarmante. On se dit, mais voyons, pourtant c'est grave, il y a le décès d'un grand-parent, il y a un accident, il y a... Mais les choses sont prises tellement simplement qu'on a l'impression que, bon, ben voilà, ça coule de source. Alors que c'est très complexe et que derrière, il ressaisit la crispation du visage, la cigarette que l'on allume et qu'on éteint très rapidement, et puis quelquefois des choses tout à fait étonnantes. Voilà, on a oublié les clés, donc il faut retrouver ses clés et aller dans l'appartement. Mais comment? Eh bien, voilà, l'enfant qui regarde sa mère faire de l'escalade. Elle continuait à monter en regardant soigneusement sur le côté pour juger de la disposition des lieux. Elle s'est rapprochée du côté gauche de l'échelle et a tendu la main gauche vers la rambarde de la véranda de l'appartement le plus proche. Quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas l'atteindre, elle a fait un grand pas dans le vide avec la jambe gauche. La main et le pied droit accrochés à l'échelle, elle a tendu son corps de toutes ses forces vers la gauche et elle a réussi à attraper la rambarde de la véranda avec la main. Je regardais autour de moi, affolée. Un homme qui portait un coupe-vent est soudain apparu sur le côté des HLM. Il a couru jusqu'à l'angle du bâtiment, puis s'est éloigné sans me jeter un regard. Ne sachant que faire, j'ai levé la tête. Ma mère, immobile, avait les yeux fixés sur l'homme au coupe-vent. Quand il a disparu, elle a tendu à nouveau la main vers la gauche. La nappe de brouillard venue de la mer au-delà de la digue s'avançait de plus en plus dense. Et on ne sait pas la suite, simplement on sait que, quand on est prisonnier d'un brouillard épais, on se sent à la fois enfermé et libre, tu sais.
Non, mais c'est un livre, c'est vrai que c'est sur la simplicité du regard de l'enfant. Mais je trouve que ça rend ce livre d'autant plus percutant. Parce que là encore, ça a un effet boomerang et ça nous renvoie à peut-être nos tourments injustifiés. Parce qu'on a une analyse que l'âge nous fait...
Détaché ici.
Oui, c'est vraiment un très très bon livre.
Dans l'émission Tourne-Page, et nous évoquons des livres qui parlent du Japon. Alors, Julie Otsuka, certaines n'avaient jamais vu la mer. C'est dans la collection 10-18. C'est un ouvrage court, mais véritablement passionnant. Et quand on met le nez dans cet ouvrage, eh bien, on va jusqu'au bout. Parce que vraiment, c'est tout à fait intéressant. Parce que nous sommes totalement dépaysés. Nous allons au Japon, nous nous trouvons sur le bateau avec des femmes qui quittent le Japon entre la Première et la Seconde Guerre mondiale pour rejoindre leur mari aux États-Unis. Et elles sont sur le bateau, nous sommes en période de guerre, le Japon est un pays très pauvre à cette époque, et ceux qui sont partis aux États-Unis ont fait miroiter à ceux qui restaient, comme tous les immigrés du monde, là où ils sont, c'est le paradis par rapport à ce qu'ils ont laissé. En tout cas, on retrouve cette dialectique. Et alors, on les voit sur le bateau évoquer chacune leurs angoisses, leurs souhaits, leurs rêves. Et puis, il y a la rencontre avec la réalité et une réalité qui renvoie aux réalités de ce que tous les migrants du monde peuvent rencontrer. La déception, la souffrance, le racisme, la classe sociale qui, finalement, nous arrivons dans un pays où on fait les travaux que les autres ne peuvent pas faire. Et alors là, eh bien, nous...
Et puis, tous les codes qui sont différents aussi.
Alors, les codes différents, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment se passe
la façon de travailler, les qualités qu'on prête aux japonaises, par exemple. Mais c'est très dur, hein, mais...
Et l'écriture est assez exceptionnelle, hachée, rapide. On a un rythme, Nous avons accouché sous un chêne l'été par 45 degrés. Nous avons accouché près d'un poêle à bois dans la pièce unique de notre cabane par la plus froide nuit de l'année. Nous avons accouché sur les îles venteuses du Delta 6 mois après notre arrivée. Nos bébés étaient minuscules, translucides et ils sont morts au bout de 3 jours. Nous avons accouché 9 mois après avoir débarqué de bébés parfaits à la tête couverte de cheveux noirs. Nous avons accouché dans les campements poussiéreux parmi les vignes. Nous avons accouché dans les fermes reculées de l'Imperial Valley avec la seule aide de nos maris qui avaient tout appris. Dans le compagnon de la ménagère, mettez une casserole d'eau à bouillir, etc. Donc il y a...
C'est pas un roman, sont des, c'est vrai tout ça.
Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, au-delà de l'écriture, on apprend beaucoup plus sur ce qui s'est passé dans cette période que dans un livre de sociologie.
Oui, je suis d'accord. C'est un ouvrage... Je pense qu'on doit le lire parce qu'il a un côté universel et on doit le lire parce qu'on ne connaît pas et on doit le lire parce qu'on ne peut pas l'oublier après.
Et puis, avec quoi jouent les enfants ? Jamais nous n'avons eu l'argent pour leur acheter des jouets. Pourtant, ils jouaient pendant des heures, tels des petits veaux dans les champs. Ils confectionnaient des épées avec des sarments de vigne et se livraient à des duels sous les arbres. Ils fabriquaient des cerfs-volants avec du papier journal et du balsa, attachaient un couteau à la ficelle et livraient combat dans le ciel les jours de grand vent. Ils réalisaient des poupées en tordant du fil de fer et de la paille. Puis, les torturaient dans les bois avec des baguettes affûtées. Ils jouaient à cache-cache au clair de lune, dans les vergers tout comme nous le faisions au Japon. On retrouve... à la fois l'universel et puis en même temps cette souffrance d'être déclassé, de vivre à la fois la souffrance personnelle mais aussi la souffrance pour les enfants parce qu'ils vont à l'école, ces enfants qui sont nés. Certains ont acquis un excellent vocabulaire et sont devenus premiers de la classe. Ils ont gagné des prix pour leur dissertation sur les fleurs sauvages de Californie, ont reçu les plus hautes distinctions en sciences, accumulé davantage de bons points qu'aucun autre élève. Mais aussi... certains prenaient chaque année du retard pendant la saison des moissons et devaient redoubler. L'une est tombée enceinte à 14 ans et on l'a renvoyée vivre chez ses grands-parents, etc. Donc, la réalité de l'émigration. Et puis, bien sûr, il y a des relations avec les personnes du pays. Le mépris, quelquefois l'utilisation sexuelle.
L'incompréhension aussi, la difficulté, ce sont des mondes tellement opposés, le Japon et les États-Unis, que c'est extrêmement difficile, ça fait une souffrance. Il n'y a rien en commun, en fait. On dirait peut-être plus ça maintenant, mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait rien en commun. Ce qui fait que, pour toutes ces femmes qui sont arrivées, qui n'avaient pas tellement le choix d'ailleurs, hein, qui ont plutôt été expédiées, et que c'est pas vraiment...
Expédiées avec des maris qui les ont souvent déçues.
Ben, bien sûr, parce que c'était arrangé tout ça. C'était acheté, c'était tout ce qu'on veut.
Mais en attendant, nous resterions en Amérique un peu plus longtemps à travailler pour eux. Pour eux, c'est-à-dire pour les Américains. Car sans nous, que feraient-ils ? Qui ramasserait les fraises dans leurs champs ? Qui laverait leurs carottes ? Qui récurerait leurs toilettes ? Qui raccommoderait leurs vêtements ? Qui repasserait leurs chemises ? Qui redonnerait le moelleux à leurs oreillers ? Qui changerait leurs draps ? Qui leur préparerait le petit déjeuner ? Qui débarrasserait leurs tables ? Qui consolerait leurs enfants ? Qui écouterait leurs histoires ? Qui baignerait leurs anciens ? Qui préserverait leurs secrets ? Qui chanterait pour eux ?
C'est peut-être la page la plus émouvante, celle-là.
On trouve là toute une réflexion. Mmh. Et puis, à côté du mal de pays, à côté de toutes ces souffrances, de ces réalités, il y a aussi le fait que la guerre éclate entre les États-Unis et le Japon et qu'ils sont considérés comme traîtres. Et là, on a aussi cette ambiguïté, cette souffrance de ceux qui, ayant beaucoup travaillé, ont acquis un petit pécule, ont construit une petite maison et qui doivent partir. Avec prudence, nous avons recommencé à sortir de chez nous. On était en décembre, nos filles aînées étaient parties travailler comme bonnes dans les villes lointaines, et les jours s'écoulaient dans le calme et le silence. Et puis, il y a, dans le quartier japonais, nous nous rassemblions tous les soirs dans les cuisines des unes ou des autres pour échanger les dernières informations. Peut-être y avait-il eu des raids dans le comté voisin, un village encerclé à la tombée de la nuit. Bref, on disait que les hommes étaient mis dans des trains et qu'on les envoyait au loin. Donc il y a aussi toute cette souffrance... Bref, un livre à lire, c'est Julie Otsuka, Certaines n'avaient jamais vu la mer. Eh bien, j'espère que vous serez tentés par, en tout cas au moins le dernier, Julie Otsuka. Et bonne lecture et bonne semaine à tous. Au revoir.